Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berti et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Journaliste, écrivain, présentateur télé, animateur radio, producteur et désormais aussi comédien, l'histoire est sa passion avec une prédilection pour les têtes couronnées, à tel point qu'il en perce régulièrement tous les secrets. Il ne cache pas ses liens très forts avec la principauté, la preuve. Il est parmi nous aujourd'hui. Bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Geneviève, merci à vous de m'accueillir.
Quand même, un passage de Stéphane Bern à Monaco. Alors, ça paraît pour ceux qui nous écoutent, ça paraît presque évident les liens de Stéphane Bern avec Monaco, puisque quand on dit que votre passion c'est l'histoire et les têtes couronnées, là vous avez un concentré en fait à Monaco. Hein.
Oui, j'ai toujours aimé Monaco. J'y viens depuis 1986. Hein, ça remonte, c'est pas d'hier. J'ai fait la première interview du prince héréditaire Albert en 1989 du prince souverain Régnier III aussi dans ces années-là, vous voyez, avant le début des années 90. Et depuis, régulièrement, c'est moi, quand j'étais pour tant le Figaro que pour la télévision, c'est moi qu'on envoyait pour faire les interviews. Donc, vous savez, la confiance, on met 40 ans à la gagner. Ouais. On peut la perdre en 5 minutes aussi. Hein. Vous savez, il suffit d'une maladresse.
C'est assez facile.
C'est assez facile. Il suffit de se croire plus important que les gens que vous interviewez. Mais j'ai toujours aimé les Monégasques, j'ai toujours aimé la principauté de Monaco. Pas seulement parce que ça me faisait rêver, mais aussi parce que c'est 7 siècles d'histoire qui résistent à tout. Et j'aime ça. Vous savez, je suis issu aussi d'un petit pays qui est le Luxembourg, où on résiste à de puissants voisins qui savent toujours mieux que vous ce qui est bon pour vous. Et donc j'aime bien ce côté un peu, on est entouré par des gens qui vous jalousent, et il faut quand même exister, perdurer, et il faut un certain génie pour avoir transformé aussi ce petit pays d'orangers et d'oliviers en quand même une principauté qui fait rêver le monde entier, qui attire le monde entier, qui génère une économie prospère et qui fait que des milliers de gens vivent heureux ici, non seulement les Monégasques, mais les résidents.
Bah oui, enfin on l'espère en tout cas.
Oui, je crois.
Vous parliez de cette dynastie, effectivement, pour les Monégasques, la solidité, finalement, au gré des difficultés, des alliances et des aléas de l'histoire. Hein. La solidité de cette dynastie, c'est un peu comme le rocher sur lequel on habite tous. Est-ce qu'il y a des comparaisons comme ça en Europe ?
Oui, il y a beaucoup de dynasties comme ça qui ont cette force de puiser dans l'histoire une énergie. D'abord, c'est la force de la tradition. C'est quoi une dynastie ? C'est une famille qui est à l'image de toutes les autres familles, qui essaye de perpétuer un savoir-faire, qui essaye d'enrichir l'héritage, de faire en sorte que ça profite aussi, je veux dire, qu'on maintienne les valeurs, les traditions, le pays, l'intégrité nationale, malgré les soubresauts de l'histoire. Et c'est vrai que Monaco a perdu une partie de son territoire.
Une grosse partie,
Roquebrune, Menton, etc.
La Turbie.
Pour autant, les Grimaldi, depuis la nuit des temps, depuis 1297, ont su préserver l'héritage, ont su s'adapter, une fois pactisé avec le roi d'Espagne, autre fois avec le roi de France, plus souvent les rois de France, évidemment, faire leur nid à la cour de France, servir. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour le prince Régnier qui a servi pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que son grand-père était plutôt, disons, un peu passif. Lui s'est engagé pour défendre justement la réputation du nom des Grimaldi. Et puis il y a des personnages fantasques. Et je trouve que c'est ce qui fait que cette dynastie est intéressante aussi. Quand vous avez une princesse Charlotte de Monaco, la grand-mère du prince, qui est vraiment un personnage qui me fascine, Alice de Monaco la princesse Alice. Je suis en train de terminer une biographie sur elle parce que je trouve ce personnage fascinant aux côtés d'Albert Ier. Et puis vous parliez de comparaison. Oui, par exemple le Danemark. Vous avez des dynasties européennes qui ont 1000 ans d'histoire. qui ont dû avaler un certain nombre de couleuvres et, ou traverser des difficultés, mais qui tiennent bon, et la population est très attachée. Vous savez, c'est un peu l'esprit français aussi, de « ah oui, mais à quoi bon, à quoi ils servent, etc. » Mais c'est quoi une famille royale? Ben c'est comme une clé de voûte. C'est-à-dire que ça paraît décoratif, mais si vous arrachez la clé de voûte, tout l'édifice s'effondre.
Ouais, on s'en rend bien compte là, au Royaume-Uni, avec la disparition des écrans de la princesse de Galles.
Oui, tout le monde est perdu. Oui, absolument. C'est-à-dire que la monarchie ne supporte pas l'incertitude.
C'est ça.
Il faut qu'il y ait une famille. C'est parce que c'est une famille emblématique de toutes les autres familles. Elle n'est pas différente. Elle traverse les mêmes épreuves.
Ah oui.
La maladie, la mort, les difficultés, les douleurs. Et pour autant, c'est une famille portée au pouvoir. Ça rend le pouvoir terriblement humain, donc faillible, on le sait. Mais je préfère encore un pouvoir faillible et humain à un pouvoir technocratique et dictatorial ou théologique. Donc je crois que, je ne sais pas si les Monégasques se rendent bien compte de la chance qu'ils ont d'avoir une famille princière qui, en même temps, sont des agents extraordinaires de promotion de la principauté pour faire en sorte que, sur le plan culturel, écoutez, à Monaco, il y a tout. Moi, je suis fasciné.
C'est ça.
C'est-à-dire que vous avez, alors sur le plan politique et économique, c'est vrai que le prince se démène sans compter. Sur le plan caritatif, la princesse Charlène, mais la princesse Caroline, princesse de Hanovre et la princesse Stéphanie font énormément.
Ah bah.
Mais je vois, par exemple, tout le rôle culturel. La princesse de Hanovre attire à Monaco, comme le faisait la princesse Alice, tous les grands talents. À la fois à l'opéra, les ballets, les musées, la Villa Sauber, la Villa... c'est incroyable, enfin.
Ah bah c'est... En tout cas, c'est incroyable, je sais pas, puisque vous parlez à quelqu'un qui y vit.
Oui, mais sur 2 kilomètres carrés...
Oui.
Non, mais sur 2 kilomètres carrés, vous avez ça nulle part ailleurs, sur 2 kilomètres carrés.
Sur une petite
efflorescence,
comme ça,
une telle efflorescence intellectuelle, culturelle, sociale, politique, toutes les nationalités se côtoient, vivent en parfaite harmonie. Bon, je vous assure, c'est un pays béni des dieux.
Mais d'ailleurs, les Monégasques... Alors, vous me posez la question de savoir si les Monégasques s'en rendent compte. Je pense que les Monégasques l'ont en tête, hein, parce que leur leitmotiv, c'est de dire sans eux, sans les Grimaldi, nous ne sommes rien. Donc, c'est plutôt lucide, quand même. Est-ce que vous pensez que les Anglais ont la même conscience de l'importance, parce qu'on se rend bien compte... du fait que les Windsor, la famille, attirent sur l'Angleterre le regard du monde entier. Mm-hmm. Hein, les funérailles de la reine Elisabeth, bon, qui est quand même un personnage de l'histoire.
Oui, c'est un personnage historique, mais là où vous avez raison, c'est que ça attire l'attention du monde entier. Chaque fois, il y a 2 milliards de personnes qui regardent à la télévision.
Le mariage de Kate et William,
Et ça a une incidence économique. Ce qu'on oublie, c'est qu'on pense toujours, vous savez, les gens ont l'âme comptable. Hein. Combien ça coûte d'organiser un jubilé, combien ça coûte d'organiser un couronnement, combien ça coûte des funérailles. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est combien ça rapporte au pays. Mais là où il y a un déficit, peut-être, et j'en ai parlé avec les conseillers du roi Charles, c'est auprès de la jeune génération. Pourquoi ? Parce qu'il y a un gap, il y a un fossé entre... le prince de Galles et la princesse de Galles qui ont 40 ans, donc c'est déjà une génération adulte.
C'est déjà une génération adulte.
Adulte.
Ouais.
Et les enfants qui sont encore des primo-adolescents. Et donc là, il y a un déficit auprès des jeunes de 20-30 ans qui ne voient pas encore l'utilité de la monarchie. Et surtout... Si vous voulez, je pense que la presse britannique, qui est très particulière avec ses tabloïds, etc., montre en épingle les faits et gestes du quotidien, tout à fait, qui n'ont aucun sens, alors qu'ils ont perdu le fil de à quoi ils servent. Et il ne faut jamais perdre de vue à quoi sert une monarchie. À quoi ça sert? Pourquoi ils sont là? Pourquoi est-ce que c'est plus intéressant qu'une république? Qu'est-ce que ça apporte de plus? Alors, il y a la continuité, il y a l'indépendance par rapport aux intérêts particuliers et aux partis. Il y a justement le fait que c'est la continuité historique qui se maintient, que c'est un symbole au-dessus de tout. Vous voyez, en tant que Français, je me rends bien compte qu'il n'y a plus rien qui fait nation en France, à part un match de foot. Et encore, parfois, il y a des débordements. Mais c'est vous dire qu'il n'y a plus de grands événements. Moi j'étais au jubilé de la reine Elisabeth à Londres. C'était fascinant. Ce qui était fascinant, c'est de voir que des millions de personnes qui n'ont rien à se dire se retrouvent ensemble et festoient ensemble. Ouais. C'est-à-dire que ça crée une communion nationale. J'ai vécu ça pour la fête le 31 mai dernier,
pour le centenaire
de Régnier III. Le prince très gentiment m'avait invité, j'étais avec les monégasques et les résidents sur la place du palais. Il y avait une vraie communion. C'est-à-dire que là, vous sentez une fibre patriotique, vous sentez que vous appartenez à la même famille.
À une famille,
à une communion de destin, en fait. Et je crois que si on ne raconte pas ça, si on ne raconte pas cette histoire, eh bien la jeune génération ne peut pas le comprendre. Et il faut les initier très tôt.
C'est très difficile. Enfin, ce que vous décrivez, c'est un phénomène qui traverse les âges. Il y en a un, peut-être, en vous écoutant, je pense à un qui avait compris ça, bien qu'il n'était pas royal lui-même. C'est Franco, quand même. Quand Franco désigne son successeur, et qu'il dit « ce sera Juan Carlos », qui était le fils du roi qui avait été chassé pour installer le régime que Franco a dirigé, enfin... Je fais des raccourcis, mais c'est à peu près ça. Hein. Et le fils d'Alphonse XIII qui monte sur le trône, réintroduit...
C'est un cas unique, une réinstauration monarchique en 1975, avec un nouveau système, évidemment, c'est plus la monarchie d'autrefois, de celle de son grand-père Alphonse XIII, mais Juan Carlos a été un grand roi. Ce qui est dommage, au fond, c'est que... C'est que pour grands que sont les rois, ils sont ce que nous sommes, disait Corneille.
Et lui,
malheureusement, a été terriblement humain. Mais je l'excuse en partie pour mille et une raisons. Il a été pauvre. Il a connu la misère. Il a connu la faim.
Les gens ne se rendent pas compte, mais jusqu'à ce qu'il arrive sur le trône, il était dans une situation de précarité.
De grande précarité. Et il s'est dit, plus jamais ça. Et donc... Vous comprenez quand après vous êtes roi, que vous êtes que tout d'un coup tous les intérêts financiers viennent à vous, etc. Bon, il n'a pas su résister. Il a pourtant restauré la démocratie en Espagne. Il me fait penser, vous savez, pardon pour la comparaison, mais on a des vaches laitières merveilleuses qui font du très bon lait, et une fois qu'elles ont donné le meilleur, elles donnent un coup de sabot dans le seau et tout est parti. Et ce qui m'a fait de la peine, c'est après 45 ans sur le trône, où il a été un roi impeccable, il a tout détruit avec une histoire de bonne femme, une histoire de chasse à l'éléphant. Enfin, ça faisait double faute, pris le doigt dans le pot de confiture avec son gendre en plus. Alors, il a payé ses dettes, il a tout remboursé, il est blanchi, et c'est la raison peut-être pour laquelle le roi Felipe VI, qui est son fils et qui est un monarque exemplaire, a accepté de se remontrer avec son père récemment en public. Oui, c'est une image forte et très touchante, parce que, comme vous le savez, le roi Juan Carlos, le roi émérite, se déplace très mal, et qu'en sortant de la chapelle Saint-Georges à Windsor pour le service en souvenir de son beau-frère Constantin de Grèce, il s'est appuyé sur le bras de son fils Felipe, qui a laissé faire, et les photographes étaient là, évidemment. Je ne pense pas que ce geste aurait pu avoir lieu en Espagne. Felipe a gardé ses distances en Espagne. Mais cela dit, il y a un progrès, parce que pour les funérailles de Constantin à Athènes, en janvier 2023, père et fils s'étaient donné l'accolade, mais très discrètement. Là, on a vu que c'était un peu plus chaleureux. Les choses évoluent, d'abord parce que Juan Carlos a été blanchi de toutes les accusations de fraude fiscale, de tout ce qu'on lui a reproché. Maintenant, vous savez, Felipe VI... il est sur la corde raide.
C'est très difficile pour lui.
C'est très difficile. Le premier ministre espagnol socialiste, Pedro Sanchez, ne tient son pouvoir que parce qu'il a pactisé avec les indépendantistes catalans. Et avec l'extrême gauche, qui ne veut qu'une chose, c'est se débarrasser de la monarchie. Et donc, vous comprenez, un premier ministre qui prête allégeance au roi et qui en même temps...
pactise avec ses ennemis
en lui montrant la corde toutes les deux minutes. C'est ça ou c'est la... Moi qui suis profondément démocrate, je trouve que ce système est pernicieux, parce qu'au fond, c'est plus la majorité qui gagne. D'abord, on sait que c'est la droite conservatrice qui a gagné les élections, et pour autant, elle n'a pas réussi.
C'est pas elle qui est en pouvoir en Espagne.
Et simplement, c'est une alliance avec un parti minoritaire, les Podemos, l'extrême gauche espagnole. Donc c'est ce parti qui fait tellement pression, ainsi que les indépendantistes. Donc ce sont deux partis ultra minoritaires qui dirigent au fond la politique de l'Espagne, et ça c'est quelque chose qui est terrible. Le roi est pris en otage par Pedro Sanchez. Alors ça va durer ce que ça durera. Ce qui me rassure, c'est qu'au fond les rois durent souvent plus longtemps que les gouvernements.
C'est ce qu'on appelle le temps long, monsieur.
Voilà, exactement.
C'est ce qu'on appelle
c'est ce que j'aime dans la monarchie, au fond. Pour autant, chaque pays a son régime. Je ne suis pas sûr, je ne sais pas si une monarchie en France pourrait résoudre les problèmes. Nous vivons en France dans une monarchie républicaine, c'est-à-dire que le président s'est octroyé tous les pouvoirs.
La 5e République, c'est un peu ça.
C'est tout à fait ça. Voilà. Et même au-delà, le président de la République a plus de pouvoir que Louis XIV en avait. Ces édits pouvaient être cassés par le Parlement de Paris, ce qui n'est absolument pas le cas.
Avec le 49-3 maintenant.
Avec le 49-3, il a tout pouvoir. Mais j'aime bien parce que j'ai ce double héritage, si vous voulez. Je suis à la fois français et en même temps luxembourgeois. Et donc je vois combien notre démocratie luxembourgeoise est aussi très vivante. On nous demande de voter tous les 5 ans. Et quand on vote, eh bien, nos votes sont pris en compte. Et on panache, par exemple.
Comme nous, d'ailleurs, comme les Monégasques.
On choisit nos représentants. Et puis ensuite, il y a une majorité qui se dessine, une coalition. Et puis, on est dans la mesure, si vous voulez. On n'est pas dans les excès. J'aime bien. Je trouve que ça me correspond assez bien. Plutôt que cet esprit qui, en ce moment, est en train de submerger nos pays, qui est une sorte de violence verbale, une sorte de course vers l'abîme. Vous savez, on a l'impression qu'on va dans le mur et on klaxonne pour accélérer. On a envie de leur dire, attendez, prenons le temps de la réflexion. Il n'y a plus de nuances non plus, on ne peut plus rien dire. Là, je parle avec vous à cœur ouvert, mais... Vous voyez, aujourd'hui, on est obligé de se méfier de tout, des réseaux sociaux, on ne peut plus rien dire sur des sujets qui sont hautement inflammables. Vous les connaissez, que ce soit l'Ukraine, la Russie, que ce soit Gaza et Israël. On ne peut plus rien dire qui soit nuancé. Même, par exemple, sur MeToo, vous voyez, sur je suis heureux que la parole des femmes se soit libérée, mais est-ce qu'on est obligé d'avoir des tribunaux populaires où on expédie les gens à patresse simplement sur les réseaux sociaux? Non, il y a des tribunaux pour
pardon
ça.
Pardon si je vous coupe, mais c'est peut-être un peu culturel, parce que on se souvient quand même que la Révolution française est partie des tribunaux populaires. C'est fondé, en tout cas, sur cette espèce de capacité qu'on a donnée au peuple de juger, de décider. C'est philosophique, mais c'est un peu ça. Et là, on se retrouve en France, peut-être dans une atmosphère qui ressemble à ça. C'est peut-être profondément ancré.
Le français est profondément révolutionnaire. Il est très conservateur quand il s'agit de ses droits et de ses privilèges, et pour autant, il est très révolutionnaire quand il s'agit d'enlever aux autres les avantages et les privilèges.
Non,
il n'y a pas de jalousie. En Angleterre non plus.
Non.
Vous savez, en France, vous voyez une jolie voiture passer dans la rue, vous la rayez. En Angleterre, vous voyez une jolie voiture, une nice car. C'est toute la différence. Mais pour autant, j'aime bien ce pays de Gaulois réfractaires, comme dirait.
Astérix et Obélix.
Mais oui, il y a ce côté... râleur et pourtant attachant, parce que je vois, moi, dans toutes mes activités, combien en allant de village en village pour faire mon émission Le Village Préféré.
Le village préféré des Français,
oui,
monsieur.
En allant faire ça, ou les secrets d'histoire, ou même dans ma mission patrimoine pour sauver le patrimoine en péril. Les gens sont très attachés à leurs valeurs, à ce qui fait l'histoire de leur terroir, de leur village. Sont d'une grande gentillesse. Donc moi, je ne rencontre sur mon chemin que des gens absolument charmants. Alors, les gens qui ne m'aiment pas ne viennent pas me voir, mais y en a peut-être que j'agace, etc. Et tant mieux, on ne peut pas plaire à tout le monde, évidemment. Mais je dois remarquer que les valeurs que je porte, la défense d'un certain nombre de traditions, ça touche les gens. Ils se disent...
D'ailleurs, est-ce que vous pensez que, quand vous vous lancez dans l'aventure du patrimoine, parce que c'est une aventure, hein, défendre le patrimoine, c'est une aventure. Parce que, quand on parle patrimoine, on parle coût. Hein, tout de suite, on se dit,
on pense
c'est
au
de l'argent.
Au lieu de penser à que voilà. C'est un investissement, on pense que c'est un luxe alors que c'est une nécessité. Puis j'en profite pour dire que derrière les vieilles pierres, il y a surtout des femmes et des hommes. D'abord, des femmes et des hommes qui les ont bâties, et puis des femmes et des hommes qui en vivent. Est-ce que les gens savent qu'il y a 150 000 emplois de métiers d'art qui travaillent sur ces chantiers du patrimoine et 500 000 emplois impactés? C'est-à-dire que c'est autant que l'automobile. Alors on nous rebat les oreilles avec l'industrie automobile, mais je vous assure, ce qui rapporte le plus pour les devises pour la France, c'est le patrimoine. Je le dis toujours, c'est ce que le monde entier vient visiter. Premier pays visité au monde, 90 millions de visiteurs, et franchement, ils ne viennent pas nous voir pour notre accueil, ni pour notre sens de l'hospitalité, ni pour notre sourire, ni notre don des langues. Franchement, ils viennent voir nos villes, nos campagnes, nos plages,
Versailles.
Nos montagnes.
Versailles.
Et Versailles, Chambord, les châteaux de la Loire, Fontainebleau, je ne sais. Enfin, nos pierres, quoi. Ils viennent voir notre patrimoine, notre histoire. Partout où je vais dans le monde, les gens me disent ah, les villages, quand on parle des villages, les gens me disent ah, mais je suis allé à Rocamadour, je suis allé à Vogué, je suis allé ici, je suis allé là. Et les gens me parlent de ça. Et on n'est pas capable d'entretenir ce patrimoine. Donc, le président, qui aime beaucoup le « en même temps », comme vous le savez, en même temps coupe les budgets du patrimoine au ministère de la Culture, et en même temps me demande à moi de faire tout le boulot. Donc, je le fais volontiers, bénévolement, sans avoir aucun titre, à part chargé de mission. Mais ça, voilà.
Chargé de mission, ça peut être tout.
Oui, c'est tout et rien. Voilà. Mais ça veut dire juste que de temps en temps, vous êtes obligé d'aller voir les députés, les sénateurs pour justifier ce que vous avez fait,
ce que vous êtes en train de
faire. Et surtout, vous avez tous les hauts fonctionnaires qui vous en veulent parce que vous faites le travail pour lequel eux sont payés, mais que vous faites bénévolement. Et ça, ils ne supportent pas. Mais j'adore. Pour moi, c'est un poste d'observation. Alors, je ne dis pas quand j'aurai... Allez, je me laisse encore 15 ans pour écrire mes mémoires, mais je vais beaucoup m'amuser parce que je vais raconter ce que je vois et à hauteur de ma pauvre personne, je vois des choses tout à fait surprenantes. Comment les gens rampent avant qu'on leur demande vis-à-vis du pouvoir? C'est ça qui me terrifie le plus, peut-être. C'est que ils n'ont pas d'avis. Ils n'ont plus d'avis.
Parce qu'aujourd'hui, on est forcé de l'admettre. Aujourd'hui, le chemin pour le pouvoir, hein, le gap, vous parliez de gap tout à l'heure, le gap entre « je n'ai pas de pouvoir et j'en ai », ce gap est tellement énorme. C'est-à-dire que tout le monde veut être chef de quelque chose. Et donc, forcément, quand vous dites « il rampe », c'est que avoir cette petite part de pouvoir, donc de pouvoir décider si on met un feu rouge à droite ou à gauche, si on plante un drapeau là ou on le plante pas.
C'est fou. Ça en dit long sur l'âme humaine, mais c'est intéressant.
Ça en dit long sur l'âme humaine. La chose qui est quand même, pour revenir aux têtes couronnées, la chose qui est quand même évidente, c'est que ils ne peuvent pas faire un pas sans que le monde entier les regarde. Et dans la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où tout le monde a envie d'être un peu acteur, d'être un peu sur le devant de la scène,
tout le monde se met en scène sur Instagram.
Donc dans ce monde-là, on se dit, si j'étais comme eux, je n'aurais pas besoin de faire tous ces efforts pour qu'on me regarde. On me regarderait.
Alors, je pense que les politiques attirent davantage de jalousie que les familles royales. Les familles royales, au fond, les gens... Alors, vous avez les irréductibles qui ne comprennent pas que la naissance vous porte sur un trône. Pour autant, ce sont les premiers à vouloir léguer leur entreprise à leur fils aîné. On n'est pas une contradiction près. Et puis, ce sont les mêmes qui, quand vous avez deux chocolatiers, un qui est là depuis la veille et un qui est là depuis trois siècles, vous allez forcément chez celui qui est là depuis trois siècles parce que vous pensez que le chocolat est meilleur. Mais on n'est pas une contradiction près.
C'est les contradictions...
De la personne humaine. Mais... ce que je trouve intéressant avec les familles royales, oui, certainement, elles sont dans elles vivent en permanence dans le regard du public. À elles de l'accepter aussi. Ouais. C'est très compliqué.
Ça a été la difficulté de Diana, d'autres.
Parce que Diana, on pensait qu'elle était faite pour ça, puisqu'elle était élevée dans l'une des plus grandes familles de l'aristocratie. Mais en fait, psychologiquement, elle n'y était pas prête.
Elle avait le CV, mais elle n'avait pas l'identité.
L'identité,
en fait.
Exactement. C'est tout à fait juste. D'autres le font très bien, je pense. Maintenant, on a un nouveau... On a une nouvelle génération de princesses qui, au contraire, ont choisi, revendiquent ce regard. Elles choisissent ce métier et elles le font parfaitement. Mrs. Perfect, pour moi, c'est Kate Middleton. Elle est incroyable. Elle est parfaite. Mais Sophie de Wessex, maintenant duchesse d'Édimbourg, est parfaite aussi à la cour d'Angleterre. Je les vois agir, Maxima, Mathilde de Belgique, ce sont des reines exemplaires qui font un travail incroyable.
D'ailleurs, il y avait un dossier dans Paris Match, oui, comme vous êtes conseiller toujours éditorial chez Paris Match et que vous écrivez dans Paris Match quand vous avez un thème qui vous... Il y avait un dossier sur ces reines qui prennent le pouvoir. Oui.
Absolument, mais elles sont tout à fait exemplaires et elles essayent d'occuper la fonction. D'abord parce qu'il n'y a pas de rôle préécrit. Il faut donc que vous habitiez la fonction telle que vous l'imaginez.
Le job, c'est ce que vous en faites.
Et je travaille beaucoup avec la grande duchesse de Luxembourg qui a créé une association, Stand Speak Rise Up, qui aide les femmes à se reconstruire après, parce que les femmes sont les premières victimes
des conflits
par le viol comme arme de guerre. Et donc on a créé une fondation pour, avec le docteur Mukwege et avec d'autres, Pramila Patten à l'ONU, pour reconstruire les femmes et pour les aider à s'en sortir. Et j'admire ce que fait la grande duchesse, parce qu'elle aurait pu se contenter de couper des rubans, d'inaugurer des chrysanthèmes et de faire tout ce qu'on attend, si vous voulez, d'une souveraine. Mais elle a pris, auprès de l'ONU, en charge la cause la moins glamour, vous voyez, parce que aller voir les survivantes, leur expliquer comment on va faire pour les reconstruire, etc., leur trouver des moyens pour qu'elles retrouvent la dignité. Et c'est dans tous les pays du monde. C'est la première chose qu'on fait, c'est qu'on abîme les femmes. Ça devient un champ de ruines pour bien marquer sa possession. Mais je les trouve courageuses, je les trouve habiles, je les trouve engagées. J'ai vu là récemment la visite de la reine Mathilde de Belgique qui est allée en Côte d'Ivoire pour les objectifs du développement durable. Elle est allée sur le terrain, elle a payé de sa personne. Si vous voulez... Ce que je trouve formidable, c'est que les membres des familles royales ne se contentent pas d'aller regarder, comme font nos hommes politiques, qui vont uniquement voir les gens quand il s'agit de quémander des voix pour les élections. Elles n'attendent rien, si vous voulez, elles n'attendent pas d'être élues. Donc, c'est de la démocratie directe et vivante.
Oui, elle marche peut-être dans les traces, excusez-moi si j'y reviens, mais parce que pour moi, Diana a quand même écrit les premières lettres de ce style-là, en tout cas, elle l'a défini. Les mines antipersonnelles, le jour où elle marche sur ce sentier
Mais avant ça, quand elle a embrassé un malade du sida,
elle a fait plus
ce jour-là contre l'ostracisme dont les malades étaient victimes.
À une époque où vraiment c'était très tendu. Oui.
C'était tendu. On est dans les années 80.
Ce sont les débuts du virus, on touchait pas
un malade du sida. Et elle l'embrasse et elle a changé le regard de la société. Non, elle a été une femme exemplaire, extraordinaire, vraiment. Elle a révolutionné. Après, elle avait ses propres...
Ce sont des gens qui ont ce supplément d'âme dès lors qu'il s'agit de faire des grandes choses, mais qui, humainement, restent...
Ils ont des faiblesses.
Restent faibles, comme vous et moi.
Sauf que nous, on s'en fiche de nous-mêmes. Tout le monde se fiche de nos faiblesses. Alors que quand vous êtes à la une des journaux tous les jours, évidemment, ça se voit davantage. Mais c'est intéressant cette idée de la notoriété. Vous savez, c'est Parce qu'aujourd'hui, Warhol disait que chacun voulait son quart d'heure de gloire. Maintenant, les réseaux sociaux...
C'est un visionnaire, hein.
C'est vraiment un visionnaire, parce qu'aujourd'hui, ouais. Avec les réseaux sociaux, tout le monde se met en scène. Tout le monde est la star de son quartier, tout le monde sait à qui aura le plus de followers. On devient, n'importe qui devient Instagrammeur, Instagrammeuse, devient influenceur, oui. Influenceuse.
Avec cet esclavage qu'on déclenche de notre propre image, c'est-à-dire que la façon dont on se voit, la façon dont oui, on veut qu'on nous voit...
Ouais, oui. Et puis ce qu'on véhicule aussi comme valeur, ouais. C'est-à-dire une sorte de grossophobie, il faut être toujours ouais. Plus mince, toujours plus jeune, toujours plus beau. Et puis c'est un temps perdu, je ne sais pas, je vois les gens maintenant, même la dernière fois que j'ai eu la chance de pouvoir dîner au Louis XV, tout le monde prend en photo le plat.
Ouais.
Pour le mettre sur Instagram,
ouais,
mais profiter de l'instant, regarder, admirer, déguster. Je trouve que, évidemment, je suis victime aussi. De temps en temps, je fais un tweet ou je poste une photo sur Instagram ou des vidéos. Mais si vous voulez, j'essaye que ça ne me prenne pas le temps de la lecture, de l'écriture ou de la culture. Mmh. Parce que je pense qu'il vaut mieux muscler son cerveau que ses mollets.
Justement,
ou ses,
vous arrivez dans les médias avec ce qu'on appelle du contenu. C'est-à-dire que vous représentez, ou en tout cas, vous avez sous le bras des dossiers que personne, ou en tout cas peu, exploite de la même manière que vous, c'est-à-dire les têtes couronnées, puisque vous arrivez à peu près... Hein,
je suis arrivé, disons, avec ça comme bagage.
Avec ça comme
bagage.
Puis
après, j'ai ouvert plus largement à l'histoire
voilà.
Et aux personnalités.
Vous l'avez ouvert plus largement. Vous ne vous proposez pas un jeu, vous arrivez avec du contenu. Vous étendez dans les médias, vous faites de la radio, vous faites beaucoup de choses différentes. Mais est-ce qu'il y a eu un moment dans ce parcours où vous vous êtes rendu compte que votre image publique était aussi un facteur de développement de cette carrière? Parce que tout à l'heure, vous disiez le patrimoine. J'imagine que Stéphane Bern, qui parle de patrimoine et qui essaye de mobiliser les consciences, c'est autre chose que Geneviève Berthier, quoi. Vous voyez,
Alors, ce qu'il y a, c'est que, disons que je suis légitime dans le domaine parce que j'ai commencé quand j'avais 15 ans à défendre le patrimoine. Donc les gens le savent.
C'est vrai que tout ça vient,
c'est...
Mais les têtes couronnées
ça vient
aussi,
de loin.
Hein,
les têtes couronnées aussi, j'ai commencé. Bien, ça a démarré très tôt. Alors maintenant, tout le monde parle des têtes couronnées. Mais quand j'ai commencé dans les années 80, tout le monde se moquait de moi.
Pas grand monde.
Ça n'intéressait personne. Tout le monde se moquait de moi. J'étais la risée des guignols de l'info sur Canal+. Les gens l'ont oublié parce que ça n'existe plus et que moi je suis toujours là. Au fond,
le temps long,
le temps long, toujours. On en est toujours là. On y revient. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que il y a une forme de légitimité.
Ouais.
Maintenant, la notoriété, elle est arrivée, chemin faisant. J'ai commencé par quelques émissions à la télévision. Il y a eu Famille, je vous aime, il y a eu Célébrité, Côte de Star, que sais-je. Avant, Saga, qui a évidemment marqué les esprits parce qu'on faisait beaucoup, beaucoup d'audience.
Et Secret d'Histoire qui fait une audience incroyable.
Secret d'Histoire depuis 17 ans. mais si vous voulez, tout ça est arrivé... petit à petit, c'est pas du jour au lendemain, on vous reconnaît dans la rue. Ça arrive petit à petit.
On vous reconnaît dans la rue,
oui,
Stéphane.
Oui, on me reconnaît, mais ça, j'ai eu une très bonne éducation qui fait que pour moi, c'est pas une valeur. Disons, la notoriété n'est pas un gage. Il y a beaucoup de gens connus qui sont en prison pour parce que ce sont des escrocs. Vous savez, il y a beaucoup de femmes d'ailleurs qui écrivent pour épouser des escrocs. J'ai lu ça dans un livre là, récemment. Ça m'a fasciné. Les escrocs reçoivent beaucoup de lettres d'amour. Bref, donc si vous dites, c'est pas un gage de bien-pensance ou un gage de sérieux d'être connu. Ce qui est important, c'est d'être reconnu pour son travail. Et je reconnais que quand vous dites Monsieur Patrimoine, les gens savent que c'est moi. Pourquoi ? Parce que ça fait des années que je me bats, ça fait des années que je dis aux Français défendez votre patrimoine, que je l'ai fait moi-même quand on est venu me chercher en sauvant un monument dans le Perche de Ré-Loire pour le sauver. Ça a été mon laboratoire, que grâce au village, grâce au secret d'histoire, et puis maintenant à la mission confiée par le président de la République en 2017, j'ai sauvé à ce jour 875 monuments. Je ne suis pas seul, mais avec toute l'équipe
cette mission a sauvé
875 monuments. On a récolté 280 millions d'euros Enfin, quand même, c'est pas rien, quoi. C'est tout ça compte. Je me rends pas compte, moi, parce que je me prends pas très au sérieux. Mais l'autre jour, j'étais en voyage à la Guadeloupe pour voir tous les sites de ma mission. Ouais. Et puis, je suis accueilli par tous les représentants de l'État, le préfet. Je me dis, mais ils attendent quelqu'un de vraiment important. Et puis, en fait, non, c'était juste pour moi. Parce que quand vous donnez 500 000 euros pour sauver une habitation, une église, vous devenez... Et en plus, là où j'assume, c'est que oui, j'ai choisi ces monuments. Alors, on arbitre avec les
ministres... Il y a un collège autour de vous, quand même.
Il y a un collège qui se réunit, d'ailleurs, dans quelques jours. Il y a le président de la République, son lui-même, épouse. Ouais. Il y a le ou la ministre de la Culture. Rachida Dati n'est que ma cinquième ministre de la Culture.
Le temps long. C'est
depuis voilà. 2017. Je l'aime beaucoup, donc tout va bien. Mais je les ai tous aimés. Je les ai tous bien aimés.
Ils ont tous été favorables à cette mission.
Ils n'avaient pas le choix, puisque c'était confié par le président de la République. Certains avaient peut-être plus de réserves que d'autres. Ils avaient toujours le sentiment que j'allais leur piquer la vedette. C'est une forme de jalousie.
Vous voyez qu'on en revient.
On en revient
à la figure publique, à l'image publique, à la notoriété.
Et je dois dire, je me suis très bien entendu avec Rima Abdulmanak, parce qu'elle pilotait la mission quand elle était au cabinet du président, comme conseiller culturel, et conseiller culture du président. Et puis ensuite, quand elle est devenue ministre, elle savait que je n'avais pas envie d'être ministre. Et que j'avais aucune intention de lui piquer sa place.
Ça, c'était un peu ma question. Vous n'avez pas envie d'être ministre?
Pas du tout. Mais parce que vous vous rendez compte, d'abord... Je suis beaucoup plus libre en étant en dehors des institutions. J'appartiens à la société civile. Toute ma légitimité, je la dois...
vraiment à la
non,
société
mais
civile.
Ma légitimité, je la dois au public.
Oui, c'est vrai.
C'est le public qui m'a fait... Qui t'a fait roi, dirait l'autre, c'est le public. C'est le public qui a fait ce que je suis. Donc, je n'ai de compte à rendre qu'au public. Mmh. Et le président vient me chercher, il est malin. Il sait que ma notoriété fait que je suis légitime pour parler patrimoine, sans doute. Maintenant, je suis bénévole. Il m'a proposé une voiture, il m'a proposé un bureau, il m'a proposé une secrétaire. Rien, je paye tout moi-même, tous mes frais, de telle sorte qu'on ne puisse pas me reprocher. Mais je pousse le truc très loin. J'ai restauré mon monument dans le Perche sans demander un euro de subvention publique auquel pourtant j'avais droit. Parce que, étant animateur sur le service public, je ne veux pas qu'on puisse dire que je suis payé d'une certaine manière par l'État, puisque je fais des émissions sur le service public, et que dans le même temps, l'État me donne de l'argent pour restaurer un monument.
Ce serait un peu confondre les gens. Oui,
alors que n'importe qui le fait, évidemment. Je serais monsieur tout le monde, évidemment, je demanderais ce à quoi j'ai droit. Mais je m'interdis de le faire. Et j'en suis très fier. Maintenant, si vous voulez, je suis plus heureux et plus libre en dehors de toute fonction officielle. Et puis voilà, un ministre, on le débarque, on l'humilie.
C'est qu'en devenant ministre, vous quittez le temps long. Hein.
Ah bah oui. On a du mal à se remettre en selle. Hein. Mon copain Frédéric Mitterrand, ça n'a pas été simple. Il a été ministre, en plus sous Nicolas Sarkozy, qui n'est pas neutre comme président.
Très forte image publique.
Très forte image publique, dans un sens ou un autre, on aime, on n'aime pas. Enfin, vous voyez, donc. Et après, vous vous retrouvez, vous avez été, raconteur d'histoire à la télévision. Il me sert beaucoup d'exemples, parce que je me suis dit, ne tombe pas dans ce travers. Parce qu'après, on ne peut plus raconter. On ne peut plus. Vous voyez, les gens après disent d'où ils parlent.
Oui, c'est ça.
C'est compliqué.
On n'a plus cette neutralité que vous revendiquez, d'ailleurs, hein, quand vous dites « je les ai tous aimés » en parlant de cinq ministres différents, c'est-à-dire que peu importe.
Ah, moi, peu m'importe les présidents aussi.
Peu importe.
Et je sers mon pays, d'abord, avant de servir un gouvernement ou un État, ou un président. Et d'autre part, si vous voulez, il ne faut pas s'engager... De façon politicienne. Mmh. Même, vous savez, quand je fais mes récits secrets d'histoire, les gens, parce que la France insoumise, régulièrement, demande ma tête. Ils adorent couper les têtes. Je ne sais pas pourquoi, ça date de la Révolution.
Robespierre,
oui, ils ne peuvent, hein, peuvent pas voilà. s'en empêcher. Et donc, Alexis Corbière, Jean-Luc Mélenchon, etc., ils demandent régulièrement ma tête à France Télévisions, sous prétexte. Et l'autre jour, j'ai vu encore un tweet, parce que j'étais en photo avec le maire socialiste de Montpellier en présentant les victoires de la musique classique. Il dit, bien, le maire socialiste perd toute estime de lui-même, il s'affiche avec le royaliste Berne. Et alors, ça m'a frappé parce que je me suis dit, ah donc,
ils vous prennent pour un royaliste.
Ils en sont encore là. Mmh. C'est-à-dire, vous voyez, je les mets au défi, dans un secret d'histoire, de pouvoir déceler quelque pensée politique que ce soit, une opinion, j'aime pas, ce que je pense, ouais, ouais. Jamais. J'essaye au contraire de travailler avec les historiens pour essayer de comprendre, mais quand vous faites Isabelle la catholique, je dis, je donne la parole à ceux qui la défendent,
ceux qui l'accablent
parce qu'elle a expulsé les juifs d'Espagne. Même chose pour Saint-Louis. Enfin, je ne me permettrai pas de prendre position, de prendre parti sur un sujet historique. Je dis les choses, j'y mets une certaine gourmandise, j'y mets ma passion, oui, j'essaye de raconter.
Votre enthousiasme, en tout cas,
oui,
ça,
oui,
c'est
bien sûr.
Sûr.
Mais à aucun moment, je donne mon avis. Donc, je ne comprends pas. Vous voyez, à part la France soumise, les gens ont bien compris que je n'étais pas pour... Philippe V, le dernier, paix à son âme.
Vous avez le droit, et c'est ce qu'on oublie. Vous parliez tout à l'heure de notre... du carcan dans lequel nous ont mis les réseaux sociaux aujourd'hui, parce que finalement, on ne peut plus dire ce qu'on pense si ce n'est pas extrêmement nuancé, parce que ça déclenche des débats infinis, etc. Donc finalement, ce que vous dites, c'est que vous avez le droit, comme moi, comme tout le monde, d'avoir votre liberté de penser, votre liberté d'opinion. Ça n'est pas pour autant que vous l'utilisez, que vous l'utilisez dans votre notoriété, puisque quand on présente une émission, enfin présente, pas que présenter, hein, puisque Secret d'Histoire, vous l'écrivez, vous le concevez.
Enfin, disons que je l'apporte, en tout cas, je l'assume.
En tout cas, quand on assume une émission, on appelle ça le prime time, hein, qui a une audience pareille, on a forcément un impact, on le sait.
Oui, on a un impact, mais évidemment, c'est une responsabilité.
C'est ça.
Et il faut juste accepter cette responsabilité. Donc, de ne pas dire n'importe quoi. Mais,
quand on s'attaque à l'histoire,
oui,
évidemment.
Il vaut mieux pas dire n'importe quoi. Mais vous noterez quand même qu'on entend plus les historiens que moi dans Secret d'Histoire.
Oui, vous faites le lien, en fait.
Je fais le lien, mais c'est surtout les historiens qu'on entend. Maintenant, j'assume aussi de faire toutes sortes d'émissions, le 14 juillet, le 31 décembre, l'Eurovision, je fais ça depuis 12 ans, je crois, de faire les victoires de la musique classique, le village préféré des Français, le monument préféré des Français. J'aime toutes ces émissions qui sont de service public, me semble-t-il, ouais. Parce qu'on défend tout ce qui est patrimonial.
Et encore,
on y revient, c'est le patrimoine de la France. Alors évidemment, c'est peut-être moins populaire que tous ces jeux, c'est moins ça correspond à ma personnalité. Ouais. Je ne saurais pas présenter un jeu, je suis pas bon pour ça. Le côté battleur, c'est pas
chacun
sa sensibilité, même je suis pas un battleur.
Voilà, en parlant de sensibilité, vous parlez souvent de la France, vous avez dit mon pays. En fait, vous avez deux pays.
J'ai deux pays. J'ai le Luxembourg aussi, que je porte en moi.
Par votre maman ?
Oui, ma mère était luxembourgeoise et mon père était français. Et donc, j'ai les deux nationalités. Il se trouve que j'ai souhaité reprendre un passeport et une carte d'identité luxembourgeoise par loyauté et fidélité pour ma famille. D'abord parce que j'adorais mes grands-parents luxembourgeois.
Ah.
Et c'est peut-être l'endroit au monde où j'étais le plus heureux dans mon enfance, quand j'étais chez mes grands-parents. Donc, parce que mes parents étaient un peu plus durs, disons, une éducation d'un autre temps.
Une éducation un peu plus difficile.
Ah oui, vraiment. Non, mais j'avais de bonnes relations avec mes parents, mais ils étaient très durs. Aujourd'hui,
une éducation. Il y a beaucoup de choses que vous décrivez dans votre façon de conduire votre vie aujourd'hui. Est-ce que vous dites « je m'interdirais de, je ne ferais pas ça, oui. je souhaiterais ». Donc on sent que vous avez une éducation de principes.
Oui, oui, beaucoup de principes et surtout une colonne vertébrale qui évite de sombrer dans n'importe quoi. Enfin, je ne sais pas, c'est simple. Maintenant, je vois n'importe quelle personne connue se dire « ah, mais c'est tellement dur, alors il se drogue ». Moi, je n'ai jamais fumé un joint de ma vie, je n'en ai jamais éprouvé le besoin et je ne vais pas aller en plus prendre les gens à témoin en disant « vous comprenez, j'ai bien du malheur parce que je suis connu ». Oui, il faut arrêter aussi de pleurnicher toutes les
semaines. Donc, la responsabilité, Stéphane, vous savez que le poids de la responsabilité que vous avez décrit sur Secret d'Histoire, par exemple, hein, quand on s'attaque à l'histoire, mais pas que, quand on accepte la mission patrimoine, quand on commente les funérailles de Diana ou de la reine Elisabeth, pardon. On a cette responsabilité. On a d'abord une responsabilité pédagogique,
oui.
puis on a une responsabilité de crédibilité, etc. Donc, est-ce que cette responsabilité, parfois, quand on fait ses choix personnels, quand on vit sa vie quotidienne, est-ce que cette responsabilité, elle n'interfère pas parfois un peu dans ce qu'on choisit ?
Ben, disons que vous y pensez.
Ben
mais chaque jour qui passe, vous faites des choix. On sait tous, n'importe qui, toute personne qui nous écoute, sait qu'on doit choisir. Est-ce que je fais le bon choix ? Est-ce que c'est la bonne route ? Est-ce que je ne me trompe pas ? Donc il faut simplement, avec le temps, on finit par se connaître. Je viens de passer le cap des 60 ans, j'ai eu ma carte senior, je suis très content. quelques réductions à la SNCF. Mais c'est très bien, j'étais très fier.
Pour aller dans les villages, c'est pratique.
J'étais très fier parce que je trouve que, d'abord, je vais vous dire une chose très personnelle, j'ai hélas perdu mon frère avant ses 60 ans, et donc je suis très content voilà, je pense que vous, c'est comme un relais que les gens qui partent vous tendent en disant « à toi de continuer le travail ».
Ouais.
Et donc, si vous voulez, j'ai été un peu blessé par la vie, j'ai eu beaucoup de deuil autour de moi, et donc ça, vous avez... Comment dire, ça vous donne un sens, une sorte de profondeur peut-être, ou en tout cas un sens de conscience de la fragilité des choses. Donc je ne veux pas faire n'importe quoi de ma vie. Donc le sens de la responsabilité, c'est ça. C'est-à-dire de se dire, je ne veux pas faire n'importe quoi à la télévision, simplement aller pour montrer ma tête. Dans la mission patrimoine, oui, j'ai un sens de la responsabilité vis-à-vis des gens qui se battent au quotidien pour sauver leur vieille pierre. Dans ce qui est, par exemple... Ma propre vie, par exemple, quand je restaure mon monument, je me dis comment je vais faire pour que après moi ça perdure. Donc j'ai créé une fondation auprès de l'Institut de France. Cette fondation remet des prix, un prix histoire, un prix patrimoine.
Mettez de la perspective, quoi.
J'essaye de travailler pour les autres aussi, et puis de donner la chance à ceux qui n'ont pas eu la chance que j'ai eu d'avoir des parents formidables qui nous ont fait comprendre qu'on pouvait s'élever grâce à la culture. Eh bien, leur donner la chance d'avoir accès à cette culture et à cette histoire.
C'est ça alors le fil conducteur, parce que j'étais en train de me dire comment on en arrive à cette appétence pour l'histoire, pour la tradition, pour le patrimoine, etc. Quand on a en même temps, parce que vous parliez de contradiction tout à l'heure, il y en a une petite chez vous, hein, c'est-à-dire que vous êtes extraordinairement moderne dans votre approche du métier, de la vie.
Pas du tout dans ma tête.
Alors, c'est pas ça, c'est que avec un raccourci un peu facile, on serait tenté de vous dire que le patrimoine, l'histoire, les têtes couronnées, c'est pas d'une modernité folle. Même si
ça intéresse beaucoup de plus en plus de jeunes. Pourquoi ? Ouais. Parce qu'ils cherchent des repères. Vous savez, on est à tâtons, là, on ne sait pas où on va.
Ouais.
On
est dans un moment sociétal un peu compliqué.
Et dans un monde où on cherche à tâtons des repères, des Anglais disent des milestones, eh bien... Les généalogies royales, c'est-à-dire qui marquent le temps. Vous savez, au Japon, par exemple, le temps est rythmé par les ères. Les ères, chaque empereur représente une ère.
Ouais.
Et c'est-à-dire qu'en fait, le temps est découpé par empereur. Et donc c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a un lien presque divin entre la dynastie et le trône du chrysanthème avec le temps moderne. Et pourtant, on ne peut pas accuser le Japon d'être un pays qui n'est pas moderne. Mais
pourtant très, très archaïque.
Très archaïque par certains aspects et très moderne par d'autres. Et un pays de tradition. Mais justement, moi, je suis très attaché à ces traditions. Pour moi, ça ne m'empêche pas d'aimer la musique contemporaine, d'aimer les artistes contemporains, d'aimer... Mais je crois que... on est au bord de la mer ici, on sait tous très bien qu'un bateau va le plus loin possible quand il a des amarres solides. Et je pense qu'il faut avoir des amarres très solides et une colonne vertébrale. Ne pas faire n'importe quoi, ne pas céder, si vous voulez, sur le long terme en pensant à faire un coup à court terme. Ce que je vous racontais au début de notre conversation, sur beaucoup ont commencé à faire une interview explosive du prince souverain de Monaco. Beaucoup, hein, juste faire un coup, mais ils ne sont pas réinvités. Oui, on ne les revoit plus.
Le temps long.
Oui, et donc la confiance, je vous dis, ça se gagne sur 40 ans. Il faut toujours faire ses preuves. Et ce n'est jamais suffisant. Et pour autant, il faut savoir que la roche tarpéienne n'est pas loin du Capitole et qu'il suffit d'un bon mot, d'une bêtise écrite ou dite, et vous tombez. Et donc, j'ai conscience de ça. Je me dis, moi, je travaille pour le temps long. Je travaille pour génération. Ça m'a amusé quand j'ai fait l'exposition avec Françoise Gamerdinger ici sur le quai Antoine Ier, sur le prince bâtisseur. On a travaillé dans les archives du palais et je retrouvais des articles de moi des années 90. Ça m'a fait marrer d'être dans les archives du palais. D'un coup, vous devenez presque dans le marbre, vous voyez, vous avez écrit une petite, restons modestes, une toute petite page d'histoire. Mais vous participez à une aventure collective. À une aventure collective.
Et dans votre aventure à vous, puisque justement là, c'est vous qui le dites, c'est pas moi. Vous dites que vous êtes sur un temps qui commence à être long, puisque quand on est en 2024 et qu'on parle des années 90, on n'est pas dans un temps court. À notre mesure, en tout cas, mesure du monde peut-être pas, mais à
la mesure humaine, bien sûr.
Oui. Sur ce parcours-là, si vous deviez comme ça me donner un ou deux repères qui ont été des vrais déclencheurs pour vous, ou en tout cas qui vous ont permis de franchir des étapes, ce seraient lesquels ?
Je pense que d'abord le moment où vous décidez de ce que vous voulez faire vraiment dans la vie. J'ai fait des études.
Vous avez quel âge d'ailleurs quand vous décidez ?
J'étais assez jeune au fond parce que je devais avoir 23 ans, je finissais mes études à l'EM Lyon. Ou 21 ans, quelque chose comme ça.
Parce que vous êtes né à Lyon.
Je suis né à Lyon, j'y suis retourné.
Vous êtes luxembourgeois et français, mais vous êtes né à Lyon.
Né à Lyon, mon père était lyonnais.
Vous êtes né le même jour que le prince Charles, que le roi
absolument.
Charles, maintenant.
Mais que Bernard Hinault, que Nagui et que Patrick Sébastien. Donc ça nuance un peu.
Ça fait des coïncidences moins pittoresques.
Mais c'est vrai que le roi Charles, j'ai toujours beaucoup d'affection pour lui à cause de cette... je comprends bien le scorpion un peu, parfois, qui va chercher... comment dire, qui peut être, je ne dis pas dépressif, mais assez mélancolique. Il a un caractère assez mélancolique.
Il a cette allure aussi.
Mais si vous voulez, donc le moment où, en sortant de l'EM Lyon, vous décidez que, bon, moi, je veux écrire. Ensuite,
c'est pas simple
parce que vous devez expliquer à vos parents qui vous ont payé vos études de commerce que vous allez oublier toutes les études, le marketing, le commerce, la finance, etc. Et que vous allez devenir journaliste de presse écrite et que vous allez manger des pommes de terre et à l'eau et des pâtes pour
vivre au sixième sans ascenseur.
Exactement. Mais ils m'ont laissé faire, mais ils m'ont coupé les vivres. Et j'ai trouvé ça très bien. Mais très gentiment, ils l'ont fait en disant très bien, tu fais ce que tu veux, mais ne compte pas sur nous pour voilà. Et donc, à 21 ans, j'ai dû gagner ma vie, écrire, faire des piges, courir la pige, oui, comme on fait. Puis très vite, ce que je racontais commençait à intéresser des gens. Donc on m'a appelé pour la radio, on m'a appelé pour la télé, et voilà. Et tout est arrivé très vite, sans que je ne l'aie vraiment décidé. Mais là où mes parents ont commencé à me prendre au sérieux, je devais avoir 26 ans, c'est quand j'ai publié mon premier livre. Bon, il y en a eu une 70 depuis, mais le premier livre, tout d'un coup, si vous voulez, vous n'êtes plus journaliste, vous devenez... mes parents valorisaient...
Vous êtes publié.
Donc il y a un éditeur qui a quand même, puis c'était pas un mauvais...
premier livre, il est chez qui ?
Chez un lieu commun, c'était Jacques Berthaud qui avait fait ça. Et après, on a fait les couronnes de l'exil, puis après, d'autres livres. Enfin, les parents ont pris ça plutôt au sérieux. Et puis ensuite, ce qui a été un événement marquant... Enfin, on parlait de Diana, mais c'est vrai que ça a été un événement marquant. C'est, vous faites des petites émissions, Famille, je vous aime, Écho de Star, etc. On vous voit de temps en temps, deuxième partie de soirée. Les gens vous trouvent sympa. Il y a deux, trois articles dans Télé 7 jours. Et puis tout d'un coup, Diana meurt. Et vous êtes le 31 août 1997 au journal de Claire Chazal, qui, entre nous soit dit, charmante, essaye de vous faire dire que ce sont les photographes qui l'ont tué. Donc je freine des quatre fers, comprenant que, bon, peut-être qu'il y a d'autres.
Peut-être qu'il y a autre chose. Hein.
Peut-être qu'il y a autre chose, c'est pas les photographes qui l'ont tué.
Il y a peut-être quelqu'un qui avait bu et qui conduisait. Quoi,
voilà, mais on ne le savait pas encore à l'époque. Ouais. Mais simplement, voilà, il faut nuancer déjà, vous voyez, être prudent. Ne pas s'engager.
En fait, vous êtes invité à parler de Diana, mais vous vous retrouvez à commenter un fait divers, hein, oui. Parce que c'est pas mais exactement c'est, la mais même bien chose. Sûr.
Et donc, si vous voulez, il y a une telle émotion ce soir-là au journal de 20h que vous êtes regardé par 8 millions de personnes. Et c'est vrai que j'étais bouleversé. J'avais eu la chance de voir Diana quelques semaines auparavant.
Parce que vous l'aviez rencontrée.
Moi, je l'ai rencontrée plusieurs fois. Ouais. J'ai beaucoup parlé avec elle. Elle me fascinait parce qu'elle était magnifique. Elle était solaire, cette femme.
Elle était incroyable.
Elle était incroyablement solaire. Ouais. Elle avait des aspects plus négatifs. C'est-à-dire que... j'avais remarqué une chose, notamment, c'est que... En fait, elle avait fini par s'aimer dans le regard des autres. Et donc, elle était devenue...
Elle jouait de ce personnage-là.
Elle avait besoin du regard des autres. C'était devenu comme une drogue pour qu'elle accepte sa vie et qu'elle s'aime. Mais c'est terrible parce que c'est une grande faiblesse, au fond. Il faut... Mais je comprends, c'est tellement dur. Ce sont des métiers tellement durs, mais pour tout le monde...
C'est Fitzgerald qui a écrit « Montrez-moi un héros, je vous écrirai une tragédie ».
Oui, oui.
On n'est pas très loin. Hein, dans le... Alors, héros, héroïne, on peut toujours avoir son avis. Mais quoi qu'il en soit, vous décriviez le parcours de cette femme qui est d'une lignée extrêmement prestigieuse.
Ah oui.
En tout cas,
importante que les Windsor.
Aussi importante qu'en les Windsor. C'est... Quand elle est choisie par la reine Elisabeth et le prince Philippe, hein, qui était encore plus traditionnaliste Mais quand elle est choisie, c'est parce qu'elle a un pédigré, on peut appeler ça comme ça.
Mais les deux grands-mères étaient amies, Lady Fermoy et Queen Mum étaient les deux meilleures amies de la Terre. Et si vous voulez, elle avait tout pour être parfaite, sauf que sa mère s'était barrée quand elle avait 10 ans, et que donc ça avait brisé sa psychologie, et qu'elle n'était plus du tout la fille de l'aristocratie. Elle était une fille perdue qui cherchait le prince charmant et qui croyait qu'elle allait le trouver. Or, et on peut le reconnaître, il y avait chez le prince Charles, qui était déjà un peu plus âgé, qui avait une forme de cynisme. Il savait qu'il n'allait pas se marier par amour, mais il a fini par l'aimer.
Il a perdu ce cynisme presque, on a l'impression, qu'il avait beaucoup plus jeune.
Mais vous savez pourquoi ? Parce qu'il a fini par épouser la femme qu'il aimait depuis le début.
Ben oui.
Comme quoi, il faut toujours épouser son premier amour, toujours.
Ça peut ne pas être le premier.
On peut se tromper, croire que, etc. Mais ce que je trouve intéressant, c'est il a été loyal et fidèle à une femme depuis le début. Ce qui est dommage, c'est que nous, on a tous aimé Diana et qu'on aurait aimé qu'il l'aimât davantage. Comme nous, on l'aimait. Mais donc, si vous voulez, la bascule dans ma carrière, ça a été la mort de Diana. Les funérailles vues par des millions de gens. Ouais. Immédiatement, Étienne Moujot sur TF1 m'a confié beaucoup d'émissions. Et puis ensuite, je me suis émancipé après l'aventure de Saga. Je suis allé à Canal+, j'ai fait Mamu. Et puis après, les gens ont vu que je pouvais être drôle et piquant et mordant. Et puis je suis parti après sur France Télévisions. Et là, j'ai pu faire des choses un peu plus profondes, à commencer par Secret d'Histoire et des émissions patrimoniales. Donc voilà un parcours, si vous voulez, qui j'essaie de construire. Il n'y a pas de plan de carrière, il n'y a pas d'ambition particulière.
Bon, néanmoins, on dit de vous que vous êtes un bourreau de travail. C'est pas très joli comme expression.
Je bosse, je suis un bosseur.
Que vous êtes un gros bosseur.
Ouais. Mais d'abord, par politesse, parce que je ne sais pas dire non quand on me propose des projets. Ensuite, les projets m'intéressent tous. Là, par exemple, je préparais une grande exposition pour le Mobilier National à Paris, au Gobelin. Sur le dernier sacre.
Quel bel endroit, le
sacre de Charles X en 1825, 2025, bicentenaire. Donc là, j'ai un peu de travail pour préparer ça. Le patrimoine m'occupe tellement toute la... Vous savez, j'ai le sentiment même, je vais vous dire, que je fais aujourd'hui plus de choses bénévoles que de choses qui me font vivre professionnellement.
Bah, néanmoins, vous avez choisi aussi de tenter l'aventure de la comédie.
Oui, alors ça, je dois dire. C'est, d'abord parce que je pense, très sincèrement, que l'animateur de Secret d'Histoire qui dit « Suivez-moi » ou qui court dans les voyages, dans ouais. les villages préférés, le jour où j'aurai besoin d'une canne ou d'un déambulateur, ça va plus être possible, si vous voulez. Le « Suivez-moi » sera beaucoup moins crédible. Alors qu'un vieil acteur qui est là sur sa chaise, un peu comme Jean Richard dans
Mais dites-moi, pensez encore au temps long, là.
Mais oui, toujours.
Bah,
oui. Je me projette toujours dans ma vieillesse et dans ma mort. C'est quelque chose qui fait partie de moi.
C'est très tête couronnée, ça, hein.
Je ne sais pas, mais d'ailleurs, j'aimerais qu'eux, ils pensent plus souvent, parce que ça leur éviterait de faire parfois n'importe quoi. Je pense que la conscience de sa propre finitude, ouais. la conscience de sa propre mort, de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, et de se dire, est-ce que mes affaires sont en ordre, de penser à l'archivage.
Est-ce que j'ai pensé à après
ouais. Voilà, et moi, j'ai pensé à après. Et je pense toujours à cette phrase merveilleuse de Sacha Guitry qui montrait les mains de Lana Marconi, sa quatrième épouse, disait « Et dire que ce sont ses mains qui fermeront mes yeux et ouvriront mes tiroirs. » et donc je me dis « Surtout pas, mettons tout en ordre avant. Et surtout, essayons de penser, parce que vous savez, les gens qui viennent visiter le Collège Royal et Militaire de Thiron-Gardet dans le Perche, ils sont parfois, alors ils sont très contents, mon sauvetage. Donc il y a un musée, il y a un jardin, enfin tout ça, un salon de thé, enfin les gens passent
Il y a tout ce qu'il faut.
Il y a tout ce qu'il faut, mais ils n'entrent pas dans ma maison. Et alors, il y a des gens qui sont impatients. Oui, mais quand même, on n'a pas pu. Non, ils veulent surtout la chambre à coucher, la salle de bain. Et je leur dis, écoutez, soyez patients. Quand je ne serai plus là,
ça sera ouvert.
Oui, mais rien ne presse. Alors, ils sont toujours un peu gênés. Mais parce qu'il y a cette curiosité, mais je ne vois pas en quoi mon tube de dentifrice va vraiment les intéresser. Mais bon, écoutez, ça fait partie des... Ce que j'aimerais, c'est que les gens viennent pour le lieu sur... C'est un lieu maintenant, puisque la ministre de la Culture a beaucoup parlé de la culture dans les territoires ruraux. Là, pour le coup, c'est de la culture dans les territoires ruraux. On raconte une histoire d'une abbaye qui a 900 ans d'histoire et d'un collège qui a été fondé par le fils d'Henri IV en 1630. Il y a de quoi raconter. Il y a un musée qui raconte tout ça, avec plein de choses. Il y a un très beau jardin. Mais non, ils veulent quand même ma chambre à coucher.
Bah, finalement, vous voyez, c'est toujours une alliance. Les gens viennent dans votre collège parce que c'est le vôtre, mais à la fois, finalement, ils découvrent l'endroit, hein, puisque finalement, par le truchement de votre notoriété, vous les attirez dans un endroit où ils ne seraient peut-être pas allés sans vous.
Peut-être.
C'est un peu... Alors moi, je me faisais cette réflexion parce que, en préparant cet entretien, j'ai regardé plusieurs secrets d'histoire. D'abord parce que j'aime l'histoire et que je trouve que vous la racontez très très bien. Et surtout, vous la mettez à la portée de gens qui peut-être ne s'y intéresseraient pas. Qui s'intéresserait à Charles II hein, et à la façon dont il a désigné son successeur, que Louis XIV accepte puisque c'est son petit-fils. Enfin bon, tout ça. Et je me disais, en regardant la façon dont vous racontez tout ça, je me disais, c'est quand même formidable d'avoir trouvé le moyen de remettre tout ça si proche des gens aujourd'hui sans qu'ils s'en rendent compte.
Oui, c'est très gentil de le dire, mais c'est vrai que l'histoire nous est beaucoup plus familière qu'on ne le croit. Parce qu'au fond, toute cette histoire raconte notre histoire.
Notre histoire, bien sûr.
Et cette histoire est la même. Alors, les costumes ont changé, mais l'âme humaine est la même. Oui. C'est-à-dire qu'il y a toujours les trois mêmes moteurs. L'argent, le pouvoir... Et le sexe.
Et le sexe, ouais.
Et c'est terrible parce que je peux vous raconter Alexandre le Grand, Darius le Perse, je peux vous raconter Nicolas Fouquet,
et comme
je peux vous raconter les personnages qui font ouais. l'actualité de Donald Trump à Monsieur Zelensky, et je ouais. peux vous les raconter avec les mêmes moteurs, le c'est pouvoir, vrai. L'argent, le sexe. Ouais. Et c'est terrible parce que vous dites donc... L'âme humaine n'a pas changé. Mais dans le même temps, on se dit, mais au fond, c'est en cela que l'histoire, elle nous est familière. C'est que je peux m'identifier ouais. à ces personnages.
Bien sûr.
Parce que je les vois.
Je connais leurs ressorts.
Je connais leurs ressorts.
Au fond de moi, je les connais.
Voilà.
Sais.
Il y a une familiarité, ça ne veut pas dire qu'on partage cette familiarité. Qu'est-ce qui fait qu'ils veulent tous le pouvoir?
Qu'est-ce qui fait qu'ils veulent tous l'argent?
Oui, mais alors qu'on sait que c'est mortifère, qu'il n'y a que du malheur au bout du compte.
Mais c'est ça, en fait, ce que je me dis, c'est... vous me dites que l'âme humaine n'a pas changé. Je me dis, c'est quand même drôle. Enfin, drôle n'étant pas le bon mot, mais c'est quand même singulier. Parce que, alors, pour le coup, si on regarde 10 secrets d'histoire à la suite, on comprend que tous ces ressorts sont mortifères.
Oui.
Et qu'ils ont prouvé maintes fois leur capacité à nous faire plonger. Mmh. Et bien, on recommence.
On recommence, et surtout, c'est... chemin faisant... on a écrit l'histoire.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on est le fruit de tout cela.
C'est
et qu'il y a parfois les jours très optimistes, je me dis, il y a quand même eu du progrès. on peut traverser le pays sans se faire égorger. Et puis parfois je me dis, non, regardez, prenez la carte du monde. Il y a, allez, 50 ans, le nombre de pays où on pouvait aller... Et aujourd'hui, la carte du monde, le nombre de pays où on ne peut plus mettre les pieds. A fortiori, quand on est une femme. C'est quand même glaçant de voir...
En tant que femme, on a quand même l'impression que le monde marche...
Régresse.
Ah, oui.
Le monde régresse.
Ah, oui.
Et donc, ça fait réfléchir quand même sur ces lendemains qui chantent, sur ce qu'on nous a vendu comme le progrès de l'histoire. C'est pour ça que je me méfie des marchands de progrès. Des gens qui pensent que, oui, la marche en avant, comme ça, vous allez voir. Non, non, restons calmes. C'est chaque jour, un pas devant l'autre. Et tout est à reconquérir tous les jours. La liberté, l'indépendance, l'autonomie, tout est à conquérir tous les jours.
Parler à une monégasque, donc la souveraineté.
Mais bien sûr, c'est un combat de chaque instant. Les valeurs démocratiques, les valeurs de libertés individuelles, c'est ce qu'on doit combattre, y compris contre nous-mêmes. Parce que souvent, vous ouvrez un journal, vous voyez des nouvelles effroyables, vous avez des tentations dictatoriales pour remettre de l'ordre dans tout ça.
Il faut tous les faire taire,
et voilà.
Ça suffit maintenant.
Oui, et on a tous ça, on le ressent.
Bien sûr.
Et bien, il faut lutter contre ça, parce qu'on est dans un état de droit, on a des règles à respecter. Mais travailler sur l'histoire nous rend très humbles, finalement, vous savez. Et surtout, on se sent tout petit, petit, petit. J'ai pris conscience de l'infiniment petit. Par contre, j'ai pris conscience aussi de l'importance des traces et de garder la mémoire. J'écris tous les soirs. Tous les soirs, j'écris.
Pour ne pas oublier.
Pour ne pas perdre
l'essence.
Y compris pour... dire des choses que je ne peux pas dire. C'est-à-dire, je pense des choses que je n'ose pas dire ou qui déclencheraient...
Vous avez prévu de sécuriser tout ça?
Non, parce qu'après, une fois que je serai mort, je m'en fiche. Ils pourront tout publier.
Ça
va être horrible. Ils vont voir que c'était un affreux bonhomme. J'ai pensé des choses effroyables sur des choses... Non, mais j'ai eu la chance de côtoyer. Parce que... Il y a des gens, vous le savez bien, dont on est obligé de dire du bien, mais vous voyez très bien leurs défauts, vous voyez leur mesquinerie, vous voyez... Et ça m'amuse beaucoup.
Oui, parce que... Alors attention, Stéphane, il y a défauts et défauts. La faiblesse n'est pas forcément un défaut. Et on peut faire des choses par faiblesse.
Non,
la mesquinerie, la méchanceté,
c'est autre chose. Non, mais moi, ce qui m'amuse, c'est par exemple, vous voyez, je suis obligé de voir tous les politiques toute la journée.
Bah, oui.
Alors, je les rencontre, et puis je note, après, dans mon journal, je dis, tiens, lui il m'a pas regardé. Il ne m'a pas regardé dans les yeux, il m'a serré la main en regardant derrière moi s'il n'y avait pas quelqu'un de plus important.
Ça doit arriver. Hein.
Ça arrive tout le temps. Et il n'était pas franc du collier.
Ouais.
Il a juste fait une photo pour les réseaux sociaux, point. Mais... ça en dit long de notre époque et de la personne que c'est.
Oui, mais est-ce que malgré tout cela, vous faites montre là d'une lucidité, en tout cas d'un regard extrêmement transparent sur le monde, hein, tout cas, est-ce que malgré tout cela, on arrive à rester optimiste?
Il faut. Et puis, je vais vous dire, je ne suis pas cynique, donc... je vous donne un exemple. Quand je suis à Monaco, et par exemple, quand j'ai rendez-vous au palais...
Ouais.
Pour aller voir le prince souverain, j'ai toujours la même émotion. Et je me dis, Vous voyez, l'émotion est la même depuis 40 ans. J'ai toujours à la fois cette appréhension, ce battement de cœur, cette chamade qui fait que...
Oui, cette impression.
Cette impression que...
Cette impression.
Et pourtant, j'ai l'occasion de le voir en maintes occasions, mais il y a toujours... Vous voyez, j'ai toujours la même curiosité de le revoir, de le retrouver dans son bureau,
de lui poser des questions.
De lui poser des questions. J'aime cet homme, je l'aime. J'ai beaucoup d'affection pour lui. C'est quelqu'un qui me touche, qui me... voilà. J'ai la chance de connaître aussi la princesse de Hanovre et la princesse Stéphanie, avec qui j'ai une histoire d'amitié assez longue et toujours fidèle. Donc, vous voyez, je ne suis pas blasé, je suis toujours content de les voir. Oui, j'ai toujours... Et puis, j'ai une devise, je reste à ma place. Oui, ça n'a rien à voir avec la célébrité. C'est leurs valeurs humaines qui sont vraiment ce qu'ils représentent pour Monaco et pour l'histoire de Monaco. Et puis, j'ai ma devise, je reste à ma place pour éviter qu'on m'y remette. C'est-à-dire, je sais qui ils sont, je ne me prends pas pour eux. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont les princes, lui et le prince souverain, ils sont les princes de Monaco. Moi, je suis Stéphane Bern, je reste à ma place.
Vous pouvez être utile.
Je peux être utile, je suis le média, c'est-à-dire le médiateur entre le grand public et eux, pour permettre de traduire, d'expliquer à quoi ils servent, d'expliquer quel est leur rôle. Ce qui les anime. Et pourquoi ils font un travail utile pour ce pays. Et ça, c'est vraiment ce que j'essaye de faire. Et j'étais très touché par ce que m'a dit la princesse Stéphanie quand elle a visité l'exposition Le Prince Bâtisseur. Elle m'a dit « Tu as vraiment raconté mon papa ». Et donc ça m'a touché parce que, vous voyez, je crois que... Moi, j'étais très impressionné, beaucoup, très, très impressionné quand j'allais voir le prince René. Il me faisait un peu... mais qui était tout à fait charmant et débonnaire.
Une voix très grave.
Merveilleux, non mais vraiment. J'ai encore le son de sa voix dans ma tête.
Derrière les vapeurs de cigarettes.
Mais il ne fumait plus au moment où à la fin. Plus. Il avait raison. Mais si vous voulez, c'est un homme... Et donc si vous arrivez à raconter une histoire... Ou à raconter un personnage le plus justement possible, là, vous savez que vous avez fait œuvre utile. Mais il faut toujours rester à sa place, humble. Mais donc, je ne suis pas... Quand vous parliez d'optimisme, oui, je reste optimiste d'abord parce que je suis jamais blasé, je suis toujours émerveillé, ça m'intéresse toujours, j'ai une grande curiosité... Et jusqu'à mon dernier souffle, je pense que je m'intéresserai à ce qui m'entoure, à la culture, aux arts, à la littérature, à la peinture. Tout m'intéresse. Ouais. Et puis, c'est vrai que les têtes couronnées étaient mon premier sujet d'intérêt. Maintenant, je fais aussi les stars ou les grandes personnalités, les philosophes, les hommes politiques. Mais je reconnais que ce qui m'a toujours plu chez les familles royales, c'est le temps long.
C'est le temps long.
C'est le temps long, on en revient toujours à ce qui me fascine. Et je pense aussi, et ça c'est pour faire de la psychologie à la petite semaine, c'est que je pense que j'ai pas résolu tous mes problèmes avec ma propre famille, et qu'avec les familles royales, j'ai retrouvé une famille idéale telle que je l'imaginais. Alors j'ai compris depuis qu'il n'y avait pas de famille idéale, parce que toutes les familles sont un peu chaotiques.
Toutes les familles ont des portes qui se ferment.
Voilà, exactement. Et puis, elles sont chaotiques, c'est-à-dire qu'il y a des
moments difficiles, il y a des dissensions,
dans toutes les familles. Mais, moi qui avais du mal à trouver ma place, on me traitait de vilain petit canard, j'avais du mal à trouver ma place dans ma famille, eh bien, j'ai fait un transfert, tout ça à cause de mes grands-parents luxembourgeois, sur ma famille grand-ducale, et sur toutes les familles royales, en pensant que c'était la famille idéale. Alors depuis, j'ai eu la chance de côtoyer de très près la famille grand-ducale, et de me rendre compte que tout ce que je voyais de l'extérieur... Mais on s'amuse quand on se raconte, quand je parle avec eux.
Vous l'avez écrit dans vos carnets, ça ?
Parfois, oui, parce que j'ai... Et même, il m'est arrivé de vivre... aux premières loges et d'être pris comme témoin de dissension. Alors que pour moi, c'était les familles idéales. Mais si vous voulez, je pense que il y a des personnalités solaires. Je pense à Maria Teresa de Luxembourg, qui est une femme incroyable et qui a mis la paix dans sa famille, qui a fait en sorte que son mari se sente... Jamais vu un couple comme ça. Moi, je me réchauffe rien qu'en les regardant vivre. Hein. Je me réchauffe. Jamais vu un couple après 50 ans de mariage, 40 ans de mariage.
Qu'on soit couronné ou pas, cette espèce de magie qui vient d'un couple ou qui vient d'une rencontre ou qui vient d'une façon d'ouvrir les yeux sur le monde, ça ne se remplace pas.
Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Parce que Marcel Pagnol avait dit à propos de Monaco, le bonheur d'un prince fait rayonner le soleil sur tout le pays. Et je le cite de mémoire, c'est pas tout à fait ça.
C'est pas tout à fait ça, mais on voit l'idée.
L'idée est là. Et je trouve que c'est assez juste. C'est-à-dire que je pense je l'ai vu notamment pour avoir commenté ici à Monaco le mariage du prince Albert en 2011. Je sentais cette ferveur, etc. Et je me disais, il y a eu une telle attente. Une telle attente de la part des monégasques pour avoir un prince heureux, pour le voir heureux, pour voir, et puis la naissance d'un héritier, pour la continuité du pays. Parce qu'on sait très bien qu'à Monaco, la continuité dynastique
est
déterminante pour la continuité du bien-être des monégasques.
Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant ?
Mais vous savez, pour vous que ça dure, disait Laetitia Ramolino, Madame Bonaparte. Parce que ce qui... C'est de garder cette capacité à s'enthousiasmer, cet œil qui frise et cette lueur qui fait que tout nous intéresse. C'est drôle parce que on prend des leçons tous les jours. Et je vais vous raconter une chose assez personnelle, mais c'est quand on est passé à l'ère d'Internet, j'ai essayé d'inciter mon père à s'y mettre, etc., lui acheter un ordinateur, etc. Et alors, il arrivait à envoyer des mails de temps en temps, mais Internet l'a pas du tout intéressé. Et j'ai compris que le jour où vous arrêtez d'être intéressé ou de ne pas suivre le progrès, vous dites « Oh non, ça, c'est pas pour moi ». Le jour où vous vous dites ça, eh bien, vous enclenchez le compte à rebours vers la mort. Mmh. Et je pense vers la fin. Et après, vos facultés cognitives diminuent. La Covid n'a pas arrangé les choses, évidemment. L'isolement des personnes âgées, ça, on pourrait en parler. Mais donc, je pense qu'il ne faut jamais cesser. Je me sens un peu parfois comme un hamster dans sa roue qui est obligé de continuer à tourner pour éviter de tomber. Et j'aime ça. C'est-à-dire... Le jour où j'arrêterai de m'enthousiasmer pour un sujet ou pour un autre, j'arrêterai de m'intéresser simplement, eh bien, ce sera mauvais signe.
Ce sera probablement, oui.
La fin. Et il ne faut pas. Donc, j'arrive toujours à penser que demain sera toujours plus intéressant qu'aujourd'hui.
Le temps long, monsieur.
Mais oui. Mais vous savez, à force, on finit par se sentir...
Par s'y habituer, hein.
Oui, puis se sentir centenaire, vous voyez. J'ai l'impression d'avoir vécu. Non, mais ce qu'il y a, c'est... Pardon pour faire le vieux con de minutes, quand même, parce que c'est toujours intéressant, ça nous fait du bien. C'est de se dire... Souvent, je suis toujours invité à des causeries avec des jeunes étudiants, des jeunes élèves. Je vais beaucoup dans les écoles, etc. Et je me rends compte du fossé qui sépare, parce qu'on n'apprend plus les mêmes choses. Alors, on apprend d'autres choses, mais on n'apprend plus ce qui nous était...
Stéphane, on ne vit plus avec les mêmes choses. Cette espèce de lien... Je ne sais pas comment le qualifier, si c'est filial, fraternel, viscéral, avec notre smartphone, et donc un monde qui n'est pas celui dans lequel on est, qui est un monde qui est là dehors, mais qui n'est pas tangible. Cette espèce de lien change notre psyché, quand même.
Oui, c'est d'une part, et puis surtout, on n'apprend plus les mêmes choses. C'est-à-dire que ce qui était le socle commun de la culture, par exemple, n'existe plus. Maintenant, autrefois, par exemple, on vous parlait de Napoléon, vous disiez « Ah non, je ne sais pas, racontez-moi ». Maintenant, Oh, je ne sais pas, puis je n'étais pas né. Ben non, moi non plus, je n'étais pas né sous Napoléon. Mais ça ne m'empêche pas de savoir.
Vous attends, voyez, je vais voir sur Google.
Il y a un minimum qui doit être dessus. Donc c'est vrai que parfois, dans les causeries avec des jeunes, je me rends compte du fossé qui nous sépare. Parce que vous parlez d'un concept ou d'une chose, ils ne savent pas de quoi vous parlez.
Non.
Vous savez, j'ai vu récemment une enquête, les gamins ne savent pas à quoi ressemble une courgette, ils ne font pas la différence avec un concombre. Ouais. Et d'autre part, ils ne savent pas quand a commencé la Révolution française.
Tout cela nous permet de dire que ce n'est pas demain la veille que nous n'aurons plus besoin de gens qui racontent les histoires. Donc,
je ne sais pas si je raconte bien la mienne, mais j'adore raconter celle des autres,
mais
surtout.
En tout cas, si, vous racontez toutes les histoires très bien.
Et merci en tout cas pour ce moment. C'était très agréable d'échanger avec vous, chère Geneviève Berti. À bientôt à Monaco.
À bientôt à Monaco.
Tous les chemins me ramènent toujours à Monaco.
Ça, c'est essentiel. Merci Stéphane.